cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM.
Bonjour, vous êtes bien avec Cartes sur table en ce 14 novembre. C'est le coup de massue qui est tombé sur la tête du peuple arménien, qu'il soit en Artsakh, en Arménie ou en diaspora. Lundi 9 novembre, un jour qui restera gravé au même titre que le 24 avril dans la mémoire collective du peuple arménien, Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, a annoncé avoir signé un accord avec le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le président russe Vladimir Poutine, un accord de fin des combats, qui sonne comme une capitulation pour l'Artsakh et pour l'Arménie. Cet accord compte 9 points qu'il faut bien expliquer. Il annonce un cessez-le-feu complet de toutes les actions militaires dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à partir de 0h, heure de Moscou, le 10 novembre, entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie, si après dénommés les parties. Les combats s'arrêtent sur les positions à cette heure-là. Les districts et les territoires d'Ardam, détenus par la partie arménienne dans le district de Ganza, en République d'Azerbaïdjan, reviennent du côté azerbaïdjanais avant le 20 novembre 2020. Le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du corridor de la Chine, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie, au nombre de 1960 soldats munis d'armes légères, de 90 véhicules blindés et de 390 unités automobiles et équipements spéciaux sera déployé. 4. Le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé parallèlement au retrait des forces arméniennes. La période de séjour du gardien de la paix de la Fédération de Russie est de 5 ans, avec une prolongation automatique pour une autre période de 5 ans, si aucune des parties ne déclare 6 mois avant l'expiration du délai la fin de cette mesure. Afin d'améliorer l'efficacité du contrôle de la mise en œuvre des accords par les parties au conflit, un centre de surveillance du cessez-le-feu est en cours de déploiement. 6. La République d'Arménie a jusqu'au 15 novembre 2020, soit dimanche, pour retourner le district de la République de Kelbajar à l'Azerbaïdjan et jusqu'au 1er décembre 2020 pour rendre le district de Latchin, laissant derrière lui le corridor de Latchin 5 km de large, qui assurera la connexion entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, mais qui ne touchera pas la ville. Au cours des 3 prochaines années, un plan pour la construction d'un nouveau parcours le long du corridor de Latchin sera déterminé, ce qui assurera un lien entre Stepanakert et l'Arménie, avec le déplacement ultérieur du contingent russe de maintien de la paix pour protéger cette route. La République d'Azerbaïdjan garantit la sécurité des mouvements le long du corridor de Latchin, des citoyens, véhicules et cargaisons dans les deux sens. Les personnes déplacées et les réfugiés internes retournent sur le territoire du Haut-Karabakh et les environs sous le contrôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 8. L'échange des prisonniers de guerre et d'autres personnes et corps détenus de défunts est effectué. 9. Et dernier point, toutes les liaisons économiques et de transport de la région sont débloquées. La République d'Arménie assure des liaisons de transport entre les régions occidentales de la République d'Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan, afin d'organiser des mouvements sans entrave de citoyens, des véhicules et des cargos dans les deux sens. Les autorités du Service fédéral de la sécurité de Russie contrôlent la communication du transport. Sur approbation des parties, la construction de nouvelles communications de transport reliant la République autonome du Nakhitchevan aux régions occidentales de l'Azerbaïdjan sera assurée. Que signifie cet accord ? Quelles en sont les conséquences pratiques, mais aussi politiques ? Est-ce un bon ou un mauvais accord ? Y a-t-il encore des marges de manœuvre ? Que peut-on faire ici en France ou en Arménie ? Le Premier ministre Pachinian pouvait-il faire autrement ? Que va-t-il se passer maintenant ? Autant de questions auxquelles, je pense, tous les Arméniens se posent depuis lundi dernier. Autant de questions que nous essaierons de répondre avec nos invités, Christian Makarian, journaliste et chroniqueur TV, spécialiste en relations internationales, Jules Boyadjian, président du comité de défense de la cause arménienne, et Ofseb Derkevorkian, membre du bureau mondial de la FRATH Next Tune. Et pour analyser en détail cet accord et ses conséquences géopolitiques, nous avons tout de suite en ligne avec nous Christian Makarian. Christian Makarian, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous nous étions quittés la semaine dernière et vous m'indiquiez que tout dépendrait de la capacité de la partie arménienne à tenir Chouchi. Mais est-ce que vous attendiez à une issue aussi rapide ?
Pour être honnête, vous aviez terminé l'interview vous-même à route en concluant que j'étais pessimiste. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui. Mais vous aviez raison.
Je crois que je ne m'attendais pas à grand-chose de meilleur. Mais le point numéro 9 que vous venez de citer, qui est extrêmement précis, honnêtement, je ne m'y attendais pas avec une telle spécificité qui démontre à l'évidence que le vieux plan Goebbels, du nom de ce diplomate américain qui, en 92, avait imaginé un échange entre le Karabakh devenu arménien et le sud de l'Arménie redevenu azéri, était quelque chose qui restait dans les esprits. Ce plan a été corrigé par le même Goebbels en 1996, et je crois qu'il est bon de le rappeler, en disant que, j'ai lu encore hier toutes les confessions de Goebbels, il dit lui-même qu'il regrette de ne pas avoir été assez réaliste et qu'il concluait en échange de la zone de Mehri qui serait rendue à l'Azerbaïdjan, il faudrait donner un accès à l'Arménie en rendant un morceau du Nakhitchevan au nord, à l'extrême nord du Nakhitchevan, ce qui permettrait à l'Arménie de retrouver un point de contact avec l'Iran et ce qui fermerait définitivement l'accès de la Turquie au Nakhitchevan. Voilà quel était le deuxième plan Goebbels de 1996. Je suis frappé par le fait que tout ça est resté dans les esprits. Mais je suis aussi frappé par une prophétie qui est celle d'Evgeny Primakov, qui a été ministre des Affaires étrangères de la Russie, de la Fédération de Russie, à la fin des années Poutine, à la fin des années 90. Et c'est un moment où, grâce à une indiscrétion, on a appris ce que Primakov avait laissé entendre aux Arméniens. Et je voudrais vous citer cette phrase. Primakov a dit, ouvrez les guillemets, nous nous sommes entendus avec l'Europe et les États-Unis. Nous vous proposons de rendre à l'Azerbaïdjan les zones que vous lui avez conquises. En échange de cela, l'Azerbaïdjan reconnaît la partie arménienne proprement dite du Karabakh. Et il ajoutait, le même Primakov, l'Azerbaïdjan, si vous les Arméniens refusez cette solution, recitation, ouvrez les guillemets, l'Azerbaïdjan sait travailler et attendre, ils ont des ressources, cela prendra 10, 20, 30 ans, ils reprendront des forces et vous enlèveront tout. Fin de citation. Je crois qu'il faut maintenant réfléchir à l'ampleur historique de ce qui vient de se passer, qui renvoie évidemment aux années 1918-1919, ce qui, pour la partie arménienne, est extrêmement douloureux, puisque ce sont des années immédiatement consécutives au génocide de 1915. Mais je crois qu'il faut analyser les choses avec deux prismes de lecture. D'abord, il y a une question extérieure et puis une question intérieure. La question extérieure nous renvoie à la cruauté, à la férocité, à l'absence totale de limites dont a fait preuve l'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie. Ça doit nous permettre de réfléchir à leur degré de détermination qui est extrêmement élevé, et ça doit aussi nous inciter à observer de très près toute la littérature qui, en Turquie, paraît autour de la liquidation de l'Arménie. Il y a quelque chose de totalement radical là-dessus, sur ce point, et ce n'est pas seulement la réalisation d'un vieux rêve pantouraniste qui consiste à réunir tous les peuples turcs, c'est aussi une réalité économique très forte que d'imaginer que grâce à l'article 9 du cessez-le-feu que vous avez cité tout à l'heure à route, en gros et même assez précisément, la Turquie se retrouve avec une autoroute qui va d'Istanbul à la Caspienne. Et ça, c'est une étape historique tout à fait majeure. Il faut donc prendre l'ampleur, la mesure de l'ampleur de ce que ça représente. Ça, c'est pour l'extérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, il me semble que il y a maintenant énormément de leçons à tirer des erreurs qui ont été commises par l'Arménie et par la République du Karabakh. Cette impréparation militaire colossale, fondée sur le sacrifice humain des soldats, qui est absolument inacceptable, parce que je crois qu'on n'est qu'au début de la révélation des souffrances humaines que toute une génération de jeunes Arméniens a dû endurer. On va apprendre progressivement le nombre des victimes, qui est sûrement pas d'un millier.
Non.
Sûrement pas de 2000, et sûrement très supérieur. Je n'avancerai pas de chiffres, puisque je n'ai pas d'informations.
Ariga Lotunian a cité entre 80 à 100 morts par jour, ce qui signifie porter sur 43 jours qu'on est dans une fourchette entre 3000 et 4500 victimes arméniennes.
C'est ça. Avec les effets secondaires des blessures, vous pouvez compter jusqu'à 5000. Pour un pays réel de 2,5 millions d'habitants, c'est une saignée qui va exercer des effets très durables sur plusieurs décennies. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il faut absolument que le stade intérieur, si vous voulez, devienne, à mon avis, la priorité. Donc on va aborder ces deux points, si vous voulez bien.
Oui.
Je crois que ce qui se passe à l'heure actuelle à Erevan et la division politique du pays, voire le désordre complet, est de nature à affaiblir encore ce pays. Alors il faut savoir ce que l'on veut. Ou bien ce pays doit prendre la mesure des responsabilités qui sont les siennes dans la défaite. Je veux dire, non pas ce pays, mais ses dirigeants. Et là, il faut laisser Pachinian continuer l'œuvre d'assainissement démocratique qu'il est en train d'entreprendre, avec toutes les maladresses dont il a fait preuve. Il doit au passage, puisqu'il s'est inscrit dans un processus démocratique, répondre de ses mensonges. Et le pire des mensonges ayant consisté à dire que tout cela n'était que des reprises stratégiques, qu'on allait reprendre Sushi, que ce n'était qu'une question d'heure, alors que nous avons appris de sa bouche et de celle d'Aroutounian qu'en vérité, dès le 5 octobre, il considérait l'un comme l'autre que la cause était perdue.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui est vrai? Que tout était perdu dès le 5 octobre ou qu'il y avait encore des possibilités? Là, on ne comprend pas et on a besoin d'explications très claires et on doit en recevoir. Je veux dire, franchement, ça n'est pas possible pour les Arméniens d'Arménie de rester dans cette espèce de contradiction à l'intérieur d'un mensonge. L'idée que j'ai trouvée pour ma part assez peu convaincante, même pas du tout, qu'il fallait poursuivre les combats parce que la première proposition de cesser le feu était intolérable, on voit mal comment la première proposition de cesser le feu a pu être plus insupportable que la dernière. Donc là, il y a vraiment un effort de clarification à faire. Pachinian, mettant en cause la corruption et l'incurie des dirigeants précédents, oui, mais Pachinian aussi répondant de ses actes devant le peuple, parce que tout cela doit se faire avec le soutien du peuple. Enfin, dernier point, Pachinian n'a pas procédé de manière très démocratique en informant très peu le Parlement, son entourage. On sait qu'il n'a pas informé le président Armen Sarkissian, qui est certes se rattache à l'ancienne caste, mais enfin, tout de même, il faut savoir dans quel camp on se situe. Si on est dans celui de la démocratie, on doit s'y tenir.
Il semblerait, information de ce matin, hein, donc qu'il n'a pas non plus, le ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mastakian, a dit qu'il n'avait pas été informé de l'accord qui a été signé.
Ça me paraît très plausible, en effet. En effet. Zohrab Mastakian étant un homme très compétent et très honnête, je le crois. Donc, si vous voulez, l'ensemble de tout cela fait qu'à mon avis, il faut serrer les priorités à l'heure qu'il est. Alors, quelles sont les priorités? Premièrement, vous avez dit accord plusieurs fois, Harout.
Oui.
Je suis pas sûr du tout qu'au niveau du droit international, ce soit un accord. Mm-hmm. C'est un cessez-le-feu. C'est encore moins un traité. Donc, tout cela peut être reconsidéré une fois la phase traumatique passée, à condition qu'on ne transforme pas cette période traumatique dans laquelle l'Arménie se trouve en période de règlement de comptes et de carnage. Je trouve pas très intelligent d'aller casser le Parlement ou le siège du gouvernement après une opération pareille. On peut comprendre la colère, on peut comprendre les manifestations qui peuvent se dérouler selon les principes démocratiques, mais enfin on peut pas comprendre le désordre.
On est bien d'accord.
Et je crois pas qu'il faille offrir aux ennemis de, l'Arménie, en prime, si j'ose dire, un pays complètement divisé et complètement ramené en arrière, c'est-à-dire en revenant dans les mains d'une caste plus ou moins militaire, ou en tout cas rattachée à la strate précédente qui est extrêmement coupable de la situation actuelle, mais extrêmement. Et je pense que tout le monde le sait. Donc, il y a un travail diplomatique à effectuer autour de ce cessez-le-feu. Je crois qu'il y a une seule opportunité pour l'instant, c'est le changement de pouvoir aux États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden, qui a qualifié Erdogan d'autocrate dans une interview qu'il a donnée au mois d'août. C'est un tournant quand même, enfin un vrai changement par rapport à la ligne qu'avait suivi Donald Trump, puisque Donald Trump était, on peut le dire, en excellent terme avec Erdogan et qu'il lui avait en gros accordé un chèque en blanc. Alors là-dedans, la France, qui ne peut pas avoir un rôle majeur, peut avoir une fenêtre d'opportunité à restaurer quelque part les accords de Minsk. Parce que ce que la Russie fait, c'est-à-dire déployer des troupes le long du corridor de la Chine ou le FSB, j'adore la précision, les troupes, les forces du FSB russe, dit le texte officiel.
Oui.
Le FSB, le long de la route qui va couper le Syunik, j'espère qu'elle ne la coupera pas, qu'elle ne le coupera pas, mais qu'elle fera que le traverser. Donc, le déploiement de forces russes de surcroît, dont on a constaté qu'il s'effectuait en 24 heures en un temps record,
On peut même se demander s'ils n'étaient pas déjà sur le pied de
guerre.
Oui,
voilà. Autrement dit, la Russie pouvait parfaitement intervenir à tout moment et elle a choisi clairement de ne pas le faire et de le faire à la fin des hostilités en constatant qu'il y avait un vainqueur et un vaincu. Bon. Mais le déploiement de ces forces n'est pas conforme au droit international parce qu'il doit y avoir une résolution pour cela et le déploiement d'un contingent qui est l'accord de la communauté internationale dans le cadre du groupe de Minsk. De ce point de vue-là, la Russie a pris des libertés, sans doute avec l'accord affolé du gouvernement arménien, ça c'est sûr, mais elle a pris des libertés qui ne sont pas conformes à un règlement durable et diplomatiquement acceptable. Donc là-dessus, il y a encore toute une discussion à entretenir. Donc pour résumer, je dirais qu'il ne faut pas ajouter le désordre intérieur à la défaite extérieure, enfin c'est pas extérieur d'ailleurs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, et il ne faut pas, surtout pas, considérer que ce texte dont vous avez donné lecture est définitif. À partir de là, il y a tout un travail diplomatique complètement différent à entreprendre. Il est désormais très clair que la Russie a changé de camp, non pas qu'elle ait cessé de soutenir existentiellement l'Arménie, mais que cette espèce de diplomatie que je qualifierais de sentimentale n'a absolument rien d'une réelle politique, mais rien. Il y aurait, par exemple, beaucoup plus d'intérêt à l'Arménie à tisser des liens plus profonds, notamment sur le plan économique avec la Chine, qui, elle, est en rivalité avec la Turquie, ne serait-ce qu'en raison des ambitions de la Turquie en Asie centrale, mais pas seulement, y compris au Moyen-Orient. Donc, il y a tout un travail de redéploiement diplomatique à faire vers la recherche de nouvelles alliances. Le lien, encore une fois, sentimental, que ce soit avec la Russie ou avec la France même, est de nature romantique, mais ça n'a rien à voir avec de la réelle politique. Donc il y a tout un travail à recommencer et il est urgent de l'entreprendre parce que on connaît, si j'ose dire, c'est le seul avantage d'un ennemi aussi cruel et dépourvu de principes, on connaît très clairement le plan turco-azéri. Et enfin, dernier point, ça c'est très important, on voit la Turquie aidant l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, on a raison. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est à quel point l'Azerbaïdjan est implanté en Turquie, à travers des investissements économiques extrêmement importants, mais aussi dans le tissu de la société. J'observais dans des statistiques que je surveillais il y a quelques jours, que par exemple le taux de mariage mixte en Turquie avec une population non turque établit que le premier pays avec lequel les Turcs se marient, hommes ou femmes, extérieurs à la Turquie, c'est l'Azerbaïdjan. Donc c'est le premier taux de mariage mixte. Donc vous avez une sorte de mixité populaire, hein, qui est en train de s'installer, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement durable et d'extrêmement profond. Donc partir en guerre avec une population de moins de 3 millions d'habitants contre cela, c'est irréaliste, complètement. Il faut le considérer comme une donnée. Et il faut donc échafauder, élaborer une réflexion, il faut repenser complètement la position de l'Arménie dans son espace, il faut considérer qu'il y a maintenant une quasi-continuité, même, vous pouvez retirer même le mot quasi, une continuité entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et que ce qui n'avait pas été possible en raison de l'émergence de l'URSS entre 1918 et 1920 est désormais possible. Donc, il ne faut pas prendre ça de manière dramatique, il faut prendre ça de manière analytique, froide. Et il faut avoir le courage de passer la phase émotionnelle et d'analyser calmement et intelligemment les transformations géopolitiques qui se sont opérées autour de l'Arménie. Fondamentalement, l'Arménie n'a pas d'alliés. La Russie, on ne peut pas considérer que c'est un allié, c'est une sorte de suzerain. L'Iran ne peut pas du tout être considéré comme un allié. Il y a d'ailleurs un débat à l'intérieur de l'Iran. Il y a la moitié des dirigeants qui sont favorables au fait qu'on ménage l'Arménie, et puis l'autre moitié qui est favorable à ce que ce soit l'Azerbaïdjan qui retire la part du lion de tout cela. Donc ça n'est pas non plus un allié, c'est évidemment un pays avec lequel il faut garder des relations, ne serait-ce que parce qu'on en a besoin sur le plan économique. Mais là encore, l'Iran est très proche, surtout en raison des derniers événements et de l'attitude de l'administration Trump à son égard, très proche de la Chine. Il y a là des reconsidérations complètes à faire. Ça passera pas par des questions territoriales ou des reconquêtes militaires. Je crois que pour l'instant, il faut oublier ça. Ça passe par une véritable relance diplomatique, une sorte de désisolement, pardon pour ce barbarisme, de désisolement de l'Arménie. L'Arménie est trop isolée. Et là, ça a été montré. Donc tout ce qui participe au ressentiment de nature émotionnelle, l'indifférence de l'Occident, la faible couverture des médias, etc., n'est pas conforme, si vous voulez, à une vision d'avenir. C'est quelque chose qui consiste encore à regarder le passé. J'entends beaucoup de gens dire « Oui, c'était comme en 1915 ou en 1918, 1920. » Il est possible que ce soit vrai, mais qu'est-ce que ça apporte ? En termes réalistes, il faut que ce pays démontre qu'il est capable d'être un État doté d'une diplomatie. Alors c'est difficile pour un pays qui a acquis son indépendance en 1991, qui, encore une fois, a subi une très forte immigration de la partie la plus formée de sa population, quelque part, hein, et qui reste un tout petit pays. Mais enfin, il faut se concevoir comme un pays de 3 millions d'habitants au maximum, plutôt moins d'ailleurs, tout le monde le sait, face à 100 millions de Turcs et d'Azéris, et dans un environnement où, honnêtement, on ne peut pas compter sur les voisins. Voilà. Quant à la Russie, et ça sera ma conclusion pour cette longue intervention, je m'en excuse, quant à la Russie, on peut dire qu'elle a gagné, qu'elle est présente partout, on peut dire, je l'ai écrit moi-même, qu'elle a mis un pied militaire en Azerbaïdjan, ce qu'elle n'avait pas auparavant. Oui, mais tout cela, ce sont des batailles du passé. La Russie montre quand même des signes de déclin. La preuve, c'est l'incursion des intérêts turcs dans cette région. Clairement, la Turquie a fait une percée. Alors aujourd'hui, on assiste à des disputes entre la diplomatie, enfin pas des disputes, c'est un peu excessif, des tiraillements entre la diplomatie russe, qui maintenant veut bloquer la diplomatie turque, puisque oui. Dans ce fameux centre d'observation de la paix, dont on ne sait pas du tout où il sera situé,
selon l'Azerbaïdjan, la dernière information qu'ils ont donnée, démentie ensuite par la diplomatie, démentie par la partie russe, qui disait que l'Azerbaïdjan voulait mettre ce centre à Chouchi.
Les Russes ne le feront pas. Et Lavrov, dans sa dernière interview, le ministre des Affaires étrangères russe, a eu une phrase très claire. Il a dit, ce sera un centre d'observation, je cite, ouvrez les guillemets, à distance.
Oui.
Fermez les guillemets. Bon, la phrase a du sens. Lavrov est un homme extrêmement fin. Donc, la Russie est quand même très consciente que la Turquie est le moins pushy, comme on dit en anglais. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'est pas de nature à plaire aux Russes. Donc, je pense pas du tout que la carte russe, qu'il faut bien entendu garder, qu'il faut bien entendu cajoler, sûrement plus que ne l'a fait Pachinian, mais ne peut pas constituer la carte d'avenir. Voilà. Si l'Arménie veut avoir un avenir réel et dépasser la défaite de 2020, il faut qu'elle repense complètement sa diplomatie et en termes géopolitiques. Très large, beaucoup plus large.
Alors, on a parlé beaucoup de la Russie. Moi, un petit mot quand même sur... vous venez d'en parler, de le rôle de la Turquie et son émergence comme puissance au-delà de la région, enfin, puisque... et ses conséquences sur l'Europe et sur la France, parce que on voit que là encore, Erdogan a placé ses pions, a avancé ses pions militairement après la Libye, après la Syrie,
oui.
Après la mer Méditerranée. Qu'attend l'Europe ou enfin quelles seront les conséquences sur l'Europe et sur la France?
Alors la Turquie, vous pouvez même ajouter au tableau que vous venez de dresser l'Irak.
Oui, bien sûr.
La Turquie procède de façon très méthodique. Par élargissement de son rectangle naturel, géographique naturel. Le nord de la Syrie, qui est en gros une occupation, et pas en gros d'ailleurs précisément, le nord de l'Irak, et puis dans évidemment les acquis précédents, à savoir Chypre, le nord de Chypre. Maintenant, les théories de la patrie bleue, que vous connaissez, c'est-à-dire...
Oui.
L'extension du plateau continental turc sous les îles grecques de Méditerranée en s'appuyant sur la fantomatique République turque de Chypre du Nord qui n'existe pas au niveau international et la Turquie élargit en gros son espace, comme l'a dit l'ambassadeur de Turquie à Paris à un confrère qui me l'a gentiment répété, il va falloir vous habituer à une Turquie présente partout. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vrai. Alors, la Turquie, pour répondre à votre question, joue sur deux tableaux. La supposée demande d'adhésion à l'Union européenne, qui n'a plus aucun sens, et à laquelle personne ne croit parmi les dirigeants européens de tous les pays. Mais alors absolument personne, plus personne. Il y a eu encore, il y a quelques années, des gens qui réclamaient ça, notamment dans la gauche... et dans l'extrême-gauche française, ce qu'il faut pas oublier quand même. Hein. Maintenant, ce sujet est complètement sorti des idées de la tête de tout le monde. Et puis, elle joue de sa deuxième appartenance, qui est celle de l'OTAN. Sur ces deux fronts, elle est sanctionnable. Sur le front européen, parce que Erdogan menace un membre de l'Union européenne direct, qui est la Grèce, un autre qui est Chypre. Là, il s'agit de menaces militaires directes. Elle a menacé durant l'été dernier un navire militaire français et le président turc injurie et offense très gravement le chef de l'État français, comme il le fait d'ailleurs avec d'autres chefs d'État, mais c'est très ciblé. Hein. Il fait ça de façon très, très habile et très calculée, en essayant par exemple régulièrement de ménager l'Allemagne. Mais il y a tout de même des possibilités. La Turquie, dans le cadre du programme d'adhésion potentielle et hypothétique Alliance européenne reçoit chaque année un chèque.
Oui.
Bon, ça, est-ce que l'Union européenne est encore tenue de le verser? La Turquie, on le sait très bien, utilise la menace des migrants qui terrorisent l'Europe et en particulier l'Allemagne. Il y a d'autres manières de procéder par rapport à ce sujet-là. On peut parfaitement découpler les débats. C'est ce que la France essaye de faire, c'est-à-dire la question des migrants et la question des migrants. La question de l'adhésion européenne en est une autre. On peut sanctionner la Turquie sur son adhésion à l'Union européenne et suspendre les versements que l'Union lui effectue chaque année. Là, il y aura des rétorsions turques, mais encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut. Quant à l'OTAN, moi j'observe que le débat avance, même si c'est très lentement. Le président François Hollande, quand même un ancien chef d'État français, a dit officiellement, dans une interview à la radio, que la question de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN était désormais posée. Le président Macron, de son côté, a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et là, ça renvoie tout le débat au nouveau président américain. En gros, est-ce que Joe Biden est capable de faire, d'amorcer une évolution sur ce sujet-là, sachant que, évidemment, les intérêts de l'Alliance Atlantique en Turquie sont encore très importants, et que si la Turquie quitte l'OTAN, il faudra lui trouver une substitution immédiate. C'est d'ailleurs pour ça que Erdogan a été très, très, très cinglant et très injurieux à l'égard de Macron, lorsqu'il a parlé, je parle d'Emmanuel Macron, de mort cérébrale de l'OTAN. La réponse d'Erdogan a été très, très cinglante, parce que, justement, la Turquie utilise à fond son statut de membre de l'OTAN, qu'elle viole d'ailleurs couramment en achetant des missiles russes, par exemple. Elle utilise son statut de membre de l'OTAN pour bénéficier d'une sorte d'immunité dans son action. Et ça, c'est un débat qui maintenant doit venir sur la table. Donc ça fait deux débats, l'Union européenne et l'OTAN, qui doivent vraiment venir sur la table. Et le fait que la Turquie n'ait quand même pas réussi à tordre le bras des Russes au sujet du Karabakh, même si elle a remporté une victoire avec l'Azerbaïdjan, doit quand même nous prévenir et doit permettre d'organiser une véritable offensive diplomatique pour dénoncer la façon dont la Turquie interprète son appartenance à une alliance atlantique en violant régulièrement les principes de cette même alliance.
Alors, dernière question, Christian Macarian, je la pose à un analyste fin des questions politiques et des rapports de force politique internes. Pensez-vous, on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait une certaine stabilité, que si le Premier ministre arménien devait répondre de ses mensonges, il fallait néanmoins éviter tout trouble déstabilisateur. Oui. Mais pensez-vous que le Premier ministre Pachinian, qui a signé cet accord qui est quand même, vous l'avez dit, avec beaucoup de conséquences graves pour l'Arménie, pensez-vous qu'il est en position de force? Peut-il être celui qui va négocier la suite? Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui signe les défaites, qui soit ensuite celui qui continue le pouvoir? C'est ça la question.
Non. Mais en général, les précédents historiques se sont fondés sur l'existence d'un homme de remplacement. Et là, moi, je vous retourne à la question. Quelle est l'alternative? Le problème, il est là.
Il y a sans doute beaucoup d'hommes compétents en Arménie. On peut parler, par exemple, du président de la République actuel, Armen Sarkissian, qui, d'ailleurs, si le Premier ministre devait démissionner, serait de facto, constitutionnellement, celui qui
selon
le remplacerait.
Selon la Constitution, oui, c'est exact. Et ça vous paraît une bonne idée qu'un représentant de la caste précédente qui a mis la République d'Arménie dans cet état-là, soit récompensé de la charge de conduire l'avenir?
Il n'a jamais été vraiment considéré comme faisant partie de cette caste. Il était ambassadeur en Angleterre et il a toujours, justement, il a eu de bonnes relations avec Pachinian.
On sait qu'il sera dans la main, je ne veux pas lui faire de procès d'intention,
oui, bien sûr.
On sait qu'il sera dans la main, de toute façon, du groupe de pression très fort que continue de représenter la caste précédente.
Écoutez,
est-ce que ça vous paraît plus porteur d'avenir que Pachignan. Là, moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre.
C'était une question.
Je vous invite à réfléchir à ça, c'est tout, parce que je pense que c'est très compliqué. Moi, les précédents historiques que j'observe, il y en a eu. C'est la défaite de 1870. La France est envahie par ce qu'on appelait à l'époque la Prusse. Paris est occupé par la Prusse. Le régime de Napoléon III est renversé, certes, mais enfin, il y a la Commune, donc un horrible règlement de compte. Ensuite, le gouvernement tiers. La France s'est redressée, elle s'est relevée. Donc, j'en retiens surtout que c'est relevable, si je
puis dire,
c'est redressable. Ensuite, vous avez un État, certes, très puissant, qui ne se compare pas à l'Arménie, qui a été coupé en deux, qui s'appelle l'Allemagne, c'est quand même encore pire que ce que subit l'Arménie, qui a été coupé en deux pendant plusieurs décennies et qui s'est reconstitué sur la base de sa volonté et de sa capacité à se redresser. Vous pouvez multiplier les exemples, mais pour répondre à votre question, lorsque la France est envahie en 1940 et que les Allemands défilent sur les Champs-Élysées, il faut 4 ans et il faut De Gaulle.
Oui.
Et il faut De Gaulle. Donc, pour l'instant, je pense qu'il s'agit surtout de gérer la détresse humaine, la souffrance des soldats, des estropiés, des blessés, des gens dont les vies sont brisées par milliers. Je crois que c'est la première priorité. Le retour des réfugiés, du Karabakh, parce que s'ils ne retournent pas, la démonstration sera faite que le territoire étant dépeuplé, eh bien, il restera encore plus accessible à l'Azerbaïdjan, et ça grèvera d'autant plus le budget de la République d'Arménie, ça créera énormément de lourdeur et de problèmes d'intégration, donc c'est très complexe, et à mon avis c'est une priorité, et il faut aussi considérer que tout ce qui concerne le patrimoine doit pouvoir être défendu, y compris la part du patrimoine qui est passée sous domination azérie. On doit pouvoir obtenir des conventions internationales à ce sujet, puisque ça porte pas sur des problèmes de population ou de présence militaire. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et pour accomplir ce travail, est-ce qu'on peut se payer le luxe d'une crise politique interne? Je n'en suis pas du tout persuadé.
Voilà. Alors, Christian Macquart, vous êtes formidable parce que vous m'offrez la transition toute trouvée. Merci encore pour cette information, puisque nous allons rejoindre justement sur ce travail qui reste à faire et sur le travail qui peut être encore fait. Nous allons avoir maintenant Jules Boyadjian, le président du comité de défense de la cause arménienne. Jules Boyadjian, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu Christian Macquart faire une analyse assez détaillée des conséquences géopolitiques alors, je vais remployer les mots, puisqu'il m'a dit qu'il fallait pas dire accord, mais qu'il faut dire cessez-le-feu. Donc, d'abord, justement, ce cessez-le-feu, comment vous le jugez?
Si vous m'autorisez, j'aimerais dire, parce que je vous écoutais avec attention, quelques mots sur ce qui vient d'être dit et qui, à mon avis, est extrêmement important. Et on voit bien... il y a une certaine forme de gêne, c'est-à-dire que est-ce qu'on continue avec les personnes qui ont signé finalement l'accord de la débâcle, ou est-ce qu'au nom de la stabilité du pays, au nom de la stabilité du pays, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et il y a un exemple très juste qui a été développé par Monsieur Macquart, qui est 1870, et effectivement la perte de l'Alsace-Lorraine. Il faut se rendre compte, c'est qu'on sort d'une époque en France, dans cette époque-là, où on est au début de la révolution industrielle, où il y a eu beaucoup d'évolutions dans Paris, et jamais personne, mais personne n'aurait imaginé que la France poursuive avec des bonapartistes, avec Louis Napoléon Bonaparte. Et d'ailleurs, quand Christian Macquart dit à juste titre, mais quelle est l'alternative? Il y a eu une période de trouble après 1870, on ne savait pas quelle allait être l'alternative, si ça allait être la République, si ça allait être la monarchie, si ça allait être la préparation du retour des bonapartistes. Mais en aucune manière, dans l'esprit des Français de l'époque, on pouvait continuer avec quelqu'un qui avait signé, enfin, qui avait perdu l'Alsace et la Lorraine. Et quand Ernest Renan, et je pense que ça c'est quelque chose qui doit marquer un petit peu les personnes qui nous écoutent. Quand Ernest Renan fait son grand discours sur qu'est-ce qu'une nation, c'est un plébiscite permanent. En réalité, il dit quoi? Il dit là, c'est un plébiscite permanent, mais contre l'Allemagne, contre l'ennemi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il reconstitue l'unité nationale dans une démarche qui est celle de l'opposition, l'hostilité à l'ennemi qui est présent, qui est menaçant, tout comme l'ennemi azerbaïdjanais, il est menaçant. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas faire ça, et je pense que ça, c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit, on ne peut pas faire ça avec ceux qui, comme ils sont d'une certaine manière signataires de l'accord, mais d'une certaine manière doivent se rattacher à l'accord. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est Nicole Pachignon qui dit cet accord, c'est le meilleur accord, etc., etc., etc. Donc, dans le contexte de contraintes. Donc, je pense que ça, c'est important que les gens ils aient ça à l'esprit, parce que nous, on est très très loin, on est très attaché aux acquis de la révolution de 2018. En même temps, il y a des gens qui sont en Arménie et qui voient ce qui a été signé, qui veulent se reconstruire. Et quand on est sur place, est-ce qu'on veut forcément se reconstruire avec celui qui a signé ça? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas le retour de Serge Sarkissian et de Robert Kocharyan. Ça, c'est une certitude parce qu'ils ont conduit l'Arménie dans une situation catastrophique. Mais la question, je pense qu'elle se pose un petit peu différemment quand on est en Arménie. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que je pense que c'est un 10 sur 70 en France, c'est à mon avis très intéressant pour comprendre ce qui se passe en Arménie aujourd'hui.
Alors
sur le cessez-le-feu, vous m'avez interrogé sur le cessez-le-feu. L'accord, moi je ne vais pas revenir sur ce qu'a très bien dit Christian Macarion et que je partage très largement. Il y a simplement deux éléments qui me semblent factuellement incontestables. Le premier, c'est clairement et sur les conséquences de l'accord. Les Turco-Azerbaïdjanais à portée de canon, donc nous sommes à portée de leur canon plus qu'ils sont aux portées d'une autre d'ailleurs, et puis deuxièmement, une présence russe à l'intérieur de nos frontières, comme il n'y en a jamais eu, comme il n'y en a jamais eu depuis 1991. Donc ça, c'est un élément très factuel et effectivement très douloureux. Le deuxième élément factuel, qui semble quand même émerger, tout le reste n'étant que supputation, c'est que les puissances du groupe de Minsk, il y avait les États-Unis qui étaient en plein processus électoral, et surtout la France ne semble pas totalement satisfaite des accords de cessez-le-feu. C'est quand même ce qui transparaît. Vous avez finalement les amis de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui disent cet accord est super, on a obtenu le cessez-le-feu, etc., etc., etc. Puis vous avez une voix dissonante, et notamment la France qui est une voix dissonante. Donc ça, c'est un élément qui est... Est-ce qu'un autre accord aurait été possible? En tout cas, cet accord a été fait sans les protagonistes du groupe de Minsk, et très vraisemblablement, la France n'y est pas favorable. Le troisième élément qui est important, et ça c'est là pour le coup je reprends quelque chose qui a été dit par Christian Macarion, mais qui me semble être en fait finalement l'une des clés de la situation, parce que effectivement les partisans de cet accord peuvent dire bah j'avais pas d'autres solutions, il n'y avait pas d'autres alternatives. Bon, il faut voir les conséquences de cet accord. Si les conséquences de cet accord c'est que personne ne rentre dans ce qu'il reste de la SAR, alors dans ce cas-là, c'est un accord qui aura précipité finalement la perte non seulement de ce qui a été non seulement de ce qui a d'ores et déjà été perdu, mais de ce qui est resté. Et de ce point de vue-là, c'est une conséquence qu'il faut regarder avec la plus grande attention.
Alors le CDSA, vous menez des actions en France pour sensibiliser à la cause arménienne dans cet océan de d'incertitude et aussi de désespoir, parce que la communauté arménienne est forcément gagnée par le désespoir. Je sais que beaucoup ont pleuré cette semaine. Sur quoi il faut maintenant porter son attention?
Bah déjà, c'est extrêmement dur et c'est une violence qu'il faut se faire sur nous-mêmes. Moi-même, c'est une violence que j'essaie de me faire sur moi-même. C'est qu'il ne faut pas être laissé gagner par le désespoir. Se laisser gagner par le désespoir parce que c'est vraiment ce que veut d'ailleurs toutes les campagnes de communication, etc., sont à cet effet. C'est ce que veulent Erdogan et Aliyev. Donc il ne faut pas se laisser gagner par le désespoir. Il faut essayer d'aller de l'avant. Et ça, c'est un élément qui est assez important. Sur ce que nous essayons de faire, on essaie de poursuivre notre action sur la question de la reconnaissance de l'Al-Sar. Ça reste quelque chose qui est pour nous extrêmement important.
Alors pourquoi c'est important que la France, alors que on pourrait penser que là le pays il est quasiment il a été annexé, etc. Pourquoi c'est important que les pays occidentaux et dont la France reconnaissent encore aujourd'hui l'indépendance de l'Al-Sar?
Parce que c'est essentiel pour déjà parce que c'est une nécessité humaine. Je veux pas être dans l'amertume comme l'a bien décrit monsieur Macarion en disant ils nous ont abandonnés, ils nous ont abandonnés, ils nous ont abandonnés. faut quand même admettre qu'ils nous ont abandonnés et que par conséquent cela a des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Donc la reconnaissance de la SARS, c'est la garantie d'un statut sur ce territoire, c'est aussi la garantie, enfin c'est quand même une première garantie qu'il n'y aura pas de reprise des hostilités, puisqu'en réalité c'est l'absence de statut du Haut-Karabakh, de la SARS, qui a eu pour effet d'enclencher les hostilités. Donc on peut pas vouloir la paix et ne pas traiter la question du statut de la SARS. Et puis, troisièmement, je pense que c'est un droit que les Arméniens ont besoin d'entendre, c'est-à-dire que nous vous reconnaissons et donc vous pouvez y vivre d'une certaine manière. Et vous avez des garanties sur ce territoire. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, la reconnaissance de l'Al-Sar, elle est absolument essentielle.
Mais n'y a-t-il pas un risque, justement, que la France reste dans cette position en disant « je fais partie du groupe de Minsk des négociations » et que, du coup, je ne peux pas me prononcer sur cette question-là ?
Ben, je pense que il y a eu une démonstration que c'est les acteurs qui contribuent. C'est-à-dire qu'en fait, l'acteur qui a été le moins neutre, c'est la Turquie. Elle a joué un rôle clé selon laquelle vous seriez neutre, vous seriez sur le banc finalement, vous seriez l'arbitre d'une certaine manière, vous seriez l'arbitre à distance, mais que tout en étant l'arbitre à distance, éloigné de tout, qui ne joue aucun rôle, vous pourriez contribuer un rôle dans la résolution du conflit, est une idée qui aurait dû peut-être nous travailler, en tout cas travailler ceux qui l'ont défendu. Donc la neutralité, c'est la neutralité, c'est en fait vous ne faites pas partie de la solution. Et là on voit bien, le groupe de Minsk, c'était des principes. Ces principes, notamment le non-recours à la force pour la résolution du conflit, il a été quand même gravement, attaqué, atteint. C'était des principes, c'est devenu un format. Puis là, c'est même plus un format, puisqu'on est sous un format russo-turc. Donc, la question se pose de comment la France veut rejouer un rôle dans cette partition. On sait, on comprend que il y a un distinguo entre ce que veut le président Macron et ce que lui laisse faire d'une certaine manière, en tout cas le pouvoir de nuisance du Quai d'Orsay, et on le voit sur la question arménienne, on le voit plus largement. Il y a une véritable volonté de nuisance du Quai d'Orsay par rapport aux initiatives fortes que veut engager le président Macron, et vous avez quand même besoin de vos diplomates pour mettre en œuvre une diplomatie. Mais ça peut être une manière pour la France, en assumant ce leadership, de retrouver une place dans ce conflit, qui est quand même un conflit qui, rien qu'en vertu de la présence des Français d'origine arménienne extrêmement mobilisés, arrive forcément à l'agenda du président de la République.
Alors, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à annoncer ? À quel horizon on peut voir cette reconnaissance de l'Al-Sar ?
En tout état de cause, il y a des forces parlementaires qui veulent utiliser leur niche parlementaire. Vous savez qu'un quart du temps parlementaire est réservé au Parlement, et puis dans ce quart-là, il y a une répartition des temps de parole entre les différentes forces politiques. Donc il y a un certain nombre de forces politiques qui veulent proposer des résolutions. Mais maintenant, ces résolutions font également l'objet au sein des groupes parlementaires d'âpres discussions, puisque vous avez des influenceurs turco-azerbaïdjanais qui font également leur travail face aux nôtres. Donc aujourd'hui, je peux pas donner une date, je peux pas non plus donner une date pour une résolution qui soit satisfaisante, mais ce travail est en cours et fort heureusement, nous avons des alliés. Il y a un autre sujet, c'est la question du patrimoine culturel, dont je comprends que il y a une attention générale sur la préservation du patrimoine culturel. Nous avons nous-mêmes pris au niveau du CDCA des contacts auprès de l'UNESCO, qu'on met évidemment à disposition des associations qui sont très très à la pointe de la connaissance de notre patrimoine culturel. Et nous allons également, évidemment, aux côtés de la diplomatie plus classique, mais on voit bien que la diplomatie arménienne, la diplomatie plus classique, elle a aussi besoin d'être appuyée par une diaspora qui a la possibilité de solliciter la directrice générale française de l'UNESCO. Et de ce point de vue-là, nous sommes en train de prendre des contacts, parce que la préservation du patrimoine culturel, c'est une préservation de notre identité, et on doit absolument y travailler.
On a vu également que la France entendait être en pointe dans l'aide humanitaire aux réfugiés. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aussi appuyer au niveau politique ?
La question des réfugiés, elle est déterminante. Et elle est déterminante à très long terme, c'est-à-dire que à court et à moyen terme. C'est-à-dire que la question des réfugiés, si les réfugiés d'Artsar ne retournent pas en Artsar, il faut bien se rendre compte que dans 5 ans, il n'y aura plus d'Artsar du tout. Même le confetti aura disparu. Il faut aussi se rendre compte que la présence des réfugiés d'Artsar, qui sont forcément sur les nerfs, c'est aussi une question politique importante en Arménie, et c'est une question qui peut, d'une certaine manière, dynamiser la vie politique de ce pays. Donc c'est un élément qui est déterminant, et puis ce sera un élément qui est déterminant pour la compréhension de l'accord. Encore une fois, je le répète, si les Artsariotes ne vont pas en Artsar, ça voudra dire que cet accord est un échec est frappé d'un échec supplémentaire. Donc c'est un élément qui est absolument déterminant. Et de ce point de vue-là, l'appui humanitaire, c'est-à-dire tout permettre pour que les Artsariotes retournent en Artsar, est un élément qu'il faut, il faut donner d'une certaine manière la possibilité aux Artsariotes de choisir de leur avenir, et ça passe par un appui humanitaire vis-à-vis de ces réfugiés.
Vous le dites, qu'est-ce qui peut encore être discuté, négocié par la France dans cet accord ?
Il y a la question du statut. Je pense que la question déterminante, c'est la question du statut. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce type d'accord était prévu par le passé, etc., etc. Mais il n'y avait pas d'accord sans statut de l'Artsar. Et là, il n'y a pas de statut à l'Artsar. Donc en fait, pour moi, c'est un cessez-le-feu qui prépare une prochaine guerre. Que ce soit très clair. C'est-à-dire que l'absence de résolution du statut de l'Artsar rend le cessez-le-feu lui-même extrêmement fragile. Et d'une certaine manière, ça rend la présence russe absolument, presque déterminante, et de ce point de vue-là, c'est dramatique. C'est une situation dramatique pour la souveraineté de l'Arménie. Donc, l'absence de résolution du statut de l'Artsar est, je pense, le point aujourd'hui nodal, qui doit être réglé rapidement ou ne sera pas réglé.
Dans ce cadre-là, il semble qu'on voit qu'il y a effectivement un double axe qui est en train de se constituer, un axe, on va dire, des quatre, c'est-à-dire ceux qui ont entre guillemets, les parties à l'accord de cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie et derrière l'Azerbaïdjan, la Turquie, puisqu'elle réclame de faire partie des postes d'observation, des forces de maintien de la paix. D'ailleurs, est-ce que vous considérez que pour la France, la présence turque dans le cadre de forces de maintien de la paix en Artsakh ou même sur la frontière serait un casus belli qui a absolument à mettre en avant ?
La manière dont vous présentez les choses, elle est, à mon avis, extrêmement intéressante. Vous mettez l'Arménie dans la bande des quatre, et vous avez parfaitement raison. La difficulté dans laquelle on est, c'est que Pachinian ne peut pas dire qu'on pourrait avoir un meilleur accord, puisque c'est lui-même qui l'a signé. Et ça, c'est un problème. On parlait tout à l'heure d'une nouvelle diplomatie pour régler un certain nombre de questions. Cette question, elle ne peut pas être réglée par celui-là même qui a signé un accord qui, forcément, doit apparaître comme le moins mauvais qu'il pouvait obtenir. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la Turquie. Moi, je suis quand même très frappé. Il y a eu des déclarations pro-arméniennes depuis le 27 septembre, mais c'était moins des déclarations pro-arméniennes que des déclarations anti-turques. La Turquie est devenue un opposant de la France, c'est devenu très clair, il n'y a absolument aucun doute. L'OTAN ne peut pas se permettre, et ça c'est un élément important, d'avoir en son sein un pays qui se comporte ainsi, c'est-à-dire avec... Christian Makarian en a parlé jusqu'à présent, l'Irak, la Syrie, l'Arménie, la Grèce, Chypre ne peut pas avoir en son sein un État qui attaque un membre de l'OTAN, puisque c'est des actes de guerre qui sont réalisés vis-à-vis de la Grèce. Et donc de ce point de vue-là, la France, qui est opposée de manière assez évidente maintenant, de manière assez claire à la Turquie, doit avoir son rôle à jouer. Elle doit aussi avoir son rôle à jouer parce qu'il y a une diaspora, c'est-à-dire que le rôle de la diaspora pour maintenir cette question à l'agenda du président de la République, elle est absolument essentielle. Il ne peut pas y avoir un président de la République qui revient devant les Français d'origine arménienne en vous expliquant qu'il a une responsabilité séculaire vis-à-vis des victimes du génocide des Arméniens et qui se présente devant les Français d'origine arménienne en leur disant « bon bah soit je suis avec vous, je pleure avec vous, et puis on pense bien fort à vous. Ça, c'est quelque chose qui est absolument pas possible. Donc, tout notre travail, c'est de poursuivre cette action en direction du président de la République, maintenir ces lignes de fracture avec la Turquie, vraiment. Ça, je pense que c'est assez bien garanti. Et d'une certaine manière, ce qu'on a fait avec les loups gris permet aussi de maintenir cette ligne de fracture. Il faut être réaliste. Et agir pour que la France prenne la mesure du fait que le groupe de Minsk est un format qui a désormais disparu. Et on tire les conséquences en assumant d'assumer le leadership sur la reconnaissance de l'AFSA.
En fait, vous redessinez un nouvel axe qui sera un axe Paris-Washington, Washington de Biden, pour contrer cet accord.
En tout état de cause, les États-Unis et la France ont été... alors, c'est moins grave, c'est pas leur territoire qui est amputé, et c'est pas leurs soldats qui sont morts, mais a été vraiment mis en retrait. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes et les Turcs, comme en Syrie, disent « Bon, ça, c'est plus votre histoire, c'est notre histoire. D'ailleurs, on s'entend très bien pour régler ces questions. Et surtout, on ne veut pas que vous rentriez dans nos questions. » Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça condamne cette région du monde à s'inscrire dans une logique d'allégeance et à ne surtout pas se saisir de la démocratie. Et les alliés, ce sont aussi des alliés qui doivent s'inscrire sur un ensemble de valeurs communes. Et de ce point de vue-là, la France et les États-Unis ont été quand même mis de côté. Je comprends que Erdogan et Trump avaient d'excellentes relations là où Biden voit bien l'impact, d'une certaine manière, le verre dans le fruit de l'OTAN que constitue la Turquie. Et de ce point de vue-là, on peut espérer qu'il y ait des conséquences qui soient fortes. Mais on peut hélas pas être certain que ces conséquences se jouent sur le conflit de l'Afar. Et c'est bien là notre difficulté. Il faut toujours remettre la question de l'Afar à l'agenda parce qu'il y a d'autres agendas avec la Turquie qui apparaissent plus immédiats, notamment la Grèce et Chypre. Et il ne faudrait pas que finalement on considère que cette question est traitée et qu'on réglera le problème turc à travers d'autres conflits.
Écoutez, Jules Voyageon, merci pour ces éclairages et pour un peu l'espoir que vous avez et la détermination que vous avez mis dans les combats futurs.
Merci beaucoup.
Alors justement, pour comprendre ce qui se passe maintenant en Artsakh et à Yerevan, nous avons en ligne Ofseb Derkevorkian. Ofseb Derkevorkian, bonjour.
Bonjour Harout, bonjour.
Vous êtes membre du bureau mondial de la FRATH Naksutyun et vous vous trouvez actuellement en Arménie où vous participez aux manifestations qui sont actuellement en cours. Mais avant de parler de ces manifestations, quel est votre avis en tant que membre du bureau mondial de la FRATH Naksutyun sur cet accord?
Oui, Harout, donc l'accord, comme vous savez, est un mauvais accord. Depuis qu'il a été signé, il n'y a pas un Arménien qui considère que ce soit un bon accord. Cet accord est dangereux pour l'Artsakh, pour les populations, pour l'Arménie, pour le patrimoine. C'est un accord catastrophique. Le Premier ministre Pachinian était certes sous la contrainte, mais il aurait dû refuser, car le signer est dramatique. Les conséquences sont tellement préjudiciables pour l'avenir, pour notre peuple, qu'il fallait pas signer cet accord. Je pense que l'ensemble des Arméniens, les Arméniens sont d'accord, sont tous d'accord avec ce constat. C'est pour cette raison que la FRA demande la démission de Pachinian.
Alors justement, pourquoi la FRA demande la démission de Nicole Pachinian? Vous avez publié un communiqué là-dessus.
Ouais. Oui, le Premier ministre doit démissionner, ce n'est pas juste une demande de la FRA, mais c'est une demande de l'ensemble de la classe politique arménienne. Il doit démissionner pour les raisons suivantes. La première raison, nous avons subi la plus grande défaite des 100 dernières années de notre histoire. Des milliers de jeunes ont été tués, on parle plus de 3000 morts. Des 10 000 km² de l'Artsakh, il ne nous restera que 2500 km². Sans exagération, l'existence même de l'Arménie et de la nation arménienne est fragilisée. L'accord qui a été signé il y a quelques jours est pire que tous les précédents plans de règlement. Pire que le plan de Madrid, de Lavrov, de Key West. La deuxième raison, je dirais à Arout, c'est que les erreurs politiques de Nikol Pachinian au niveau interne, au niveau des relations internationales, durant ces deux dernières années, ont été des raisons majeures du début de la guerre et de sa fin si tragique. Il ne faut pas regarder uniquement les 44 jours. Il faut analyser les deux dernières années et tirer les conclusions. Et le dernier point, Nikol Pachinian doit démissionner car cet accord a été signé sans consulter le peuple, ni le Parlement, ni même le président de la République qui a déclaré, on était surpris, et qui a déclaré qu'il a lu cet accord, l'information concernant cet accord dans les journaux. Ici, je souhaite vous informer qu'actuellement, il y a un régime militaire en Arménie. Un régime militaire est décrété en Arménie et cette situation empêche la population de critiquer cet accord et d'exprimer son opinion. Il faudra absolument lever ce régime et rétablir la liberté d'expression. Ça, c'est le passé.
Oui. Alors, justement...
Voilà. Ce sont les erreurs du passé.
Est-ce que... les opposants, vous avez peut-être entendu Christian Makarian ou d'autres, ouais. Les opposants en Arménie, disent que... c'est aussi dû à la corruption des régimes précédents et on ne veut pas voir revenir les régimes corrompus de Serge Sarkissian ou de Robert Kocharian qui ont mis le pays à genoux. Et d'ailleurs, c'est un argument utilisé par Nikol Pachinian qui dit que si j'avais eu l'argent qui a été pillé au pays, j'aurais peut-être pu avoir une armée mieux équipée.
Ouais, bon. Harout, il faut être très clair. Pour la FRA, je veux être très clair. Le retour des anciens est inenvisageable. Pour nous, c'est totalement exclu. C'est, pour la FRA, totalement interdit. J'insiste sur ce point pour lever toute ambiguïté. Nous sommes favorables à la constitution d'un gouvernement d'union nationale de transition avec sa tête une personnalité consensuelle. C'est notre projet. Aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique arménienne, l'ensemble de la classe politique demande la démission de Nikol Pachinian et la composition d'un gouvernement de transition qui aura comme objectif d'organiser des élections anticipées. Attention, attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Nikol Pachinian instrumentalise les peurs des retours des anciens pour rester au pouvoir. Cette stratégie est nuisible. Les décisions internes sont destructives. La nation arménienne a besoin de se rassembler et de se concentrer sur les dangers existentiels et les enjeux stratégiques auxquels nous faisons face. Pourquoi il ne faut pas que Pachinian reste? Vous savez, dans cet accord, l'accord qui a été signé n'est pas l'accord final. Dans ce texte, on parle du Grand Agreement. On parle d'un accord final qui sera signé prochainement. Nous demandons la démission de Pachinian car un nouveau Premier ministre pourra relancer les négociations dans le cadre du groupe de Minsk avec intelligence, ce qui n'a pas été le cas durant les deux dernières années, et obtenir un meilleur accord pour le peuple arménien. Cet accord inclut plusieurs points flous. Tous les spécialistes sont d'accord sur ce point. Il y a plusieurs points qui ne sont pas clairs, qu'il faudra renégocier. Par exemple, le statut de l'Assar, il n'est pas défini. Il faudra mettre en place aussi une stratégie de reconquête nationale à moyen terme, se renforcer au niveau diplomatique, économique, militaire. Je pense que celui qui a signé la capitulation ne peut pas construire l'avenir. Donc, il faut vraiment... On ne veut pas uniquement punir ou sanctionner Pachinian. Notre objectif, c'est de construire un meilleur avenir, c'est de sauver ce qui pourra être sauvé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Que répondre également à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou même de certaines personnes en Arménie qui disent oui, mais il y a eu des trahisons, des gens qui n'ont pas voulu aller se battre, et c'est ces gens-là qu'on retrouve aujourd'hui dans ceux qui manifestent. Quelle était la position de la FRA durant cette guerre ?
Oui. Oui, on entend cet argument et je vais en parler. La FRA a tout donné durant cette guerre au niveau politique, médiatique, de l'aide humanitaire et militaire. Vous savez, nos camarades sont toujours au front. On a eu 25 morts, plus que 40 blessés. Dans la diaspora, notre réseau de Haïtad, les CDCA ont œuvré sans relâche. Oui, on constituait, on va dire, une deuxième armée qui a eu des succès considérables. Je veux saluer nos jeunes de la FRA Nord-Sérund, de Rome, la Croix-Bleue arménienne, les maisons de la culture pour leur travail remarquable. Ils ont tout donné pendant 44 jours. Et en Arménie, nous avons déclaré dès les premières heures que nous cessions nos activités comme parti d'opposition. On a clairement annoncé que nous étions à la disposition du Premier ministre. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Pachinian, avec le ministre des Affaires étrangères. Nous avons transmis à M. Pachinian nos constats sur la situation et nos propositions. Malgré la déclaration des autorités, je peux vous assurer que nous étions au courant que la situation sur le terrain était extrêmement compliquée. Nous observions plusieurs problèmes au niveau politique, diplomatique, militaire, organisationnel. Il ne faut pas accuser les gens qui fuyaient ou qui ne combattaient pas. On ne peut pas envoyer, c'est une guerre de cinquième génération, on ne pouvait pas envoyer des volontaires qui n'étaient pas formés, leur dire, vous choisissez un chef, vous formez un groupe de 30, vous choisissez un chef et vous allez vous battre. Mais attention, il y a eu plusieurs groupes qui se sont retrouvés au front, mais sans savoir ce qu'ils allaient faire, sans avoir un encadrement, sans avoir une préparation préalable. Donc, il est extrêmement dangereux, il n'est pas acceptable d'accuser le peuple, d'accuser l'armée. C'est le gouvernement, les dirigeants étaient responsables et avaient l'obligation d'organiser. Donc, lorsque nous avons transmis ces inquiétudes à M. Pachinian pour faire face à l'incapacité du gouvernement à gérer la situation, nous avons aussi uni l'ensemble de la classe politique et proposé avec 17 partis de créer un conseil politico-militaire pour mobiliser les meilleures forces du peuple arménien. Et aussi, pour partager la responsabilité. Pour partager la responsabilité d'une défaite éventuelle. Nous avons aussi demandé la signature d'un accord stratégique avec la République d'Aftar pour ouvrir la voie vers la reconnaissance par les pays tiers. Parce que plusieurs pays nous posaient la question, nous disaient « Oui, mais l'Arménie n'a pas reconnu. Pourquoi on va reconnaître ?» Malheureusement, toutes nos propositions n'ont pas été acceptées par le gouvernement. J'irai encore plus loin. Avant quelques heures de la signature de l'acte de capitulation, avec 17 partis, nous avons demandé à M. Pachinian de démissionner pour éviter la signature de cet accord. Malheureusement, encore une fois, il ne nous a pas écoutés. Et aujourd'hui, M. Pachinian porte l'entière responsabilité de cette situation.
Aujourd'hui, il y a de grandes manifestations depuis 3 jours. Alors effectivement, il y a eu d'abord dans la première nuit des mouvements violents, que je pense que vous condamnez, de mise à sac du Parlement et des institutions arméniennes. Mais depuis, il y a des manifestations très bien organisées, très pacifiques, qui ont lieu tous les jours. Dans quelle ambiance se passent ces manifestations et y a-t-il une adhésion populaire à ces manifestations?
Oui. Oui, tu fais bien de le dire. Nous condamnons fermement les violences. Monsieur Arad Mirzoyan a été frappé. Il est blessé. Il était à l'hôpital. Donc nous condamnons fermement ces actes. Et on est très clair sur ce point. Les manifestations, oui, se déroulent depuis 3 jours, essentiellement sur la place de l'Opéra. Moi, je vois des jeunes, des sœurs et des mères de famille ayant perdu leurs enfants. C'est très, très dur de voir, de les écouter. Il y a des apparties, beaucoup de mères et d'enfants venus d'Assar. Des volontaires aussi venus du front qui ne comprennent pas pourquoi et qui a pris cette décision. Il y a des intellectuels, hier, l'intellectuel Vassan Ouskanian, il a pris la parole, des artistes, des représentants de la société civile. Bref, je dirais que plus que 15 000 Arméniens, 15 000, oui, je dirais un nombre... aux alentours de 15 000 participent à ces manifestations, malgré le Covid et le désespoir de la capitulation.
Est-ce que la loi martiale, vous l'évoquiez en début d'interview, mais est-ce que la loi martiale et les menaces faites d'arrestation pèsent également sur la volonté des gens à descendre dans la rue ?
Bien sûr. C'est pour ça que j'ai demandé, c'est pour ça qu'on demande la levée de la loi martiale. C'est impossible d'exprimer actuellement, il est impossible d'exprimer une opinion concernant cet accord. Parce que exprimer un accord concernant cet accord est vu comme un critique au gouvernement, et donc les critiques ne sont pas permises, et donc il y a il y a la répression, donc les manifestations aujourd'hui sont pacifiques, mais déterminées. Les organisateurs ont déclaré que l'ensemble des opérations se dérouleront dans le respect de l'ordre constitutionnel, donc il n'y aura pas usage de force et ils font nécessaire pour qu'il n'y ait aucun débordement. Malgré les tentatives des provocateurs, on voit des provocateurs et la répression des forces de l'ordre. Vous êtes au courant que 30 chefs d'opposants à cet accord, hein, 30 opposants à cet accord, dont le président de la FRA Arménie et plusieurs membres de la direction de la FRA ont été arrêtés par les services secrets. Deux de ces arrestations ont eu lieu au sein même de nos bureaux. Mais après 24 heures de privation de liberté, ils ont été relâchés. L'objectif est clair, empêcher les responsables de diriger ce mouvement de contestation. Pour atteindre ce but, j'aimerais vous raconter ça. Hier, juste avant une demi-heure de la manifestation, la manifestation était à 16 heures, à 15h30, Ishram Saratelian, le président de la FRA Arménie, a été convoqué par la direction générale des enquêtes. Et l'interrogatoire a duré 3 heures. Ishram était de nouveau libre juste à la fin de la manifestation. Franchement, n'est-il pas paradoxal que Pachinian utilise des méthodes répressives alors qu'il nous avait promis de garantir la liberté d'expression et le fondement d'un état de droit. Donc, cette question est une question importante à lui poser.
On parle également de barrages routiers qui empêchent les manifestants d'arriver des villes autour. On parle également de l'interruption des réseaux téléphoniques dans les heures qui précèdent les manifestations pour empêcher les envois de SMS les groupes sur WhatsApp, etc. Est-ce que tout ça est vrai ou ce sont encore des rumeurs?
Il y a eu des rumeurs qu'Internet 3G, 4G seront coupés, mais c'est pas la réalité. Par contre, les blocages, oui, il y a des difficultés pour que les la population des régions puisse atteindre Yerevan. Donc ça c'est une difficulté, oui, une vraie difficulté.
Mais il n'y a pas eu d'interruption. À chaque fois,
les rumeurs, mais il n'y a pas eu d'interruption de 3G ou 4G.
À chaque fois, les policiers utilisent le Covid ou la loi martiale pour essayer d'expliquer pourquoi ils demandent aux gens de rester chez eux, quoi.
Non, ce qu'on a comme info, c'est qu'ils font des fouilles ou qu'ils arrêtent ou qu'ils font des contrôles et ces contrôles donc prennent beaucoup de temps et souvent il y a des embouteillages et donc
les gens renoncent
les manifestants qui créent des difficultés pour qu'ils changent d'avis ou pour qu'ils soient très en retard et qu'ils n'arrivent pas à l'heure à la manifestation.
On parle de la ratification. On parle de la ratification de l'accord de cessez-le-feu par le Parlement, qui entre guillemets entérinerait le fait, puisque constitutionnellement il faut qu'il soit ratifié et qu'il ne l'est pas pour l'instant. Les manifestations ont pour objet aussi d'empêcher cette ratification. Quelles sont les prochaines étapes? Où se passent les manifestations aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y aura l'allumage des bougies au Madena Taran. Donc, il y aura un rassemblement à l'opéra et après, il y aura une marche vers le Madena Taran. Les opposants à cet accord présenteront demain un plan d'action et leur revendication et un plan d'action, un programme politique, et aussi apporteront des précisions concernant le leadership de ce mouvement. Parce que ce jour, il y a 17 organisations qui dirigent ce mouvement. Mais on comprend bien que la population a besoin aussi de précisions concernant la direction et d'une manière générale l'organisation de ce mouvement.
Oui, parce qu'on a bien compris, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça ne signifie absolument pas le retour du pouvoir corrompu des pouvoirs précédents, mais que c'était une des réserves importantes du peuple aujourd'hui qui ne souhaite pas ce retour et voit toute manifestation de contestation de Pachinian comme potentiellement ce retour.
Oui. Moi, je suis déjà exprimé sur ce point.
Oui.
Aujourd'hui, en Arménie, les forces politiques, même les anciens, sont conscients qu'ils sont.
Je voulais dire par là, c'était.
Ils sont pas acceptés par la population.
Je veux dire par là, c'est un peu la clé du succès de ce mouvement. C'est-à-dire que c'est le peuple suivra s'il arrive à être sûr que ce qui va arriver ne sera pas un retour en arrière.
Je pense que ça, c'est un point important. C'est un point important. Mais il faut que le peuple, réalise et comprenne la gravité de la situation. Aujourd'hui, les pertes sont considérables. Les pertes au niveau des humaines, au niveau des territoires, la grande fragilité dans laquelle se trouve l'Arménie, il faut le peuple soit est conscient et arrive à comprendre cette situation et voit un espoir dans un nouveau gouvernement, un nouveau leader qui arrive à mener les négociations et obtenir un meilleur accord pour les Arméniens, c'est là que la population bougera. Donc c'est tout notre rôle d'expliquer tout ça à la population, d'arriver à convaincre, parce que il y a un travail très important qui est fait par Pachinian et son entourage de présenter ce qui se passe aujourd'hui comme un, comme un conflit entre les nouveaux et les anciens. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un combat pour obtenir le pouvoir. C'est une question de lier à l'avenir de l'Arménie. Et il faut pas présenter entre anciens et nouveaux. C'est entre une Arménie stratégiquement forte et une Arménie qui est au bord de l'effondrement ou de même de la disparition. C'est ça le point qu'on essaye de bien présenter à la population.
Bah écoutez, Osep Kader Kavokian, merci encore. Donc, on rappelle que donc ce mouvement se poursuit en Arménie et que aujourd'hui donc il y aura un allumage de bougies puis une marche entre la place de l'Opéra et le Maneh Ataran. Merci encore et à bientôt.
Merci Ali, merci. Au revoir.
Voilà. C'est sur ces éléments un peu d'espoir que s'achève cette émission. Je voudrais quand même remercier nos invités Christian Makarian, Jules Boyadjian et Osep Kader Kavokian. Restez à l'écoute d'Hype FM parce que je pense que l'actualité, elle évolue tous les jours maintenant. À la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur Table.
Carte sur Table. Une émission proposée par Hype FM.